Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous voici donc à nouveau ensemble pour la suite du roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Pointel avait lu ou disons survolé mon scénario qui lui-même ne parlait que de la mort. Peut-être avait-il pensé que du coup je pouvais entendre son histoire. Il avait raison. À travers celle-ci, je reconnaissais l'animal épiphanique des films que je passais mes journées à visionner. Je retrouvais le cerf que Robert De Niro tient en joue dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Et surtout, je voyais revenir l'éternelle silhouette du daim blanc de la vérité. N'était-ce pas vers lui que toutes mes aventures tendaient ? Si je flottais depuis si longtemps dans une absence qui m'avait progressivement coupé de la société, c'était pour être prêt lorsqu'il surgirait, c'était pour l'accueillir. Je pouvais considérer sans trop d'exagération que l'histoire de Pointel m'était destinée. Il est vrai que j'avais déjà trop bu pour réfléchir au caractère véritablement destinal de ce récit, et donc à la nature de messager de Pointel. Mais voilà, le cerf s'approchait. À travers ce récit, il me faisait signe et je savais qu'un cerf ne vient jamais seul. Avec lui, c'est toute l'histoire du monde qui s'affole. Les bois du cerf qui avaient failli transpercer la tête de Pointel se recomposaient dans la mienne avec des noms. Une ramure s'écrit dans l'esprit. Voici que je tends la main vers elle. Et puis, quelque chose circulait dans mes veines, une chose que le récit de Pointel avait allumée, une chose qui, elle aussi, m'était familière, une colère. Dans mes grands soirs, lorsque le désespoir s'égale à l'amour de vivre, lorsqu'il m'arrive de penser en même temps au suicide et à l'avenir, je pourrais mordre. Le fauve rôde dans les bois comme l'irascible circule dans nos veines. C'est à ça que je pensais en attendant Pointel, exactement à cette phrase. Le fauve rôde dans les bois comme l'irascible circule dans nos veines. Qui étais-je au juste ? Parfois le rite s'éclaire, on sait qu'on est en route. On sent sa main brûler. Il est possible que le royaume appartienne aux violents. Mais si la violence précède la révélation, le dernier geste la récuse. Il suffirait au tout dernier moment de se baisser et de cueillir une fleur. En revenant, Pointel m'expliqua qu'il cherchait à financer le prochain film de Léo Carax. C'était un casse-tête épouvantable. Carax avait une idée géniale, une histoire où se croisaient la finance internationale et le clonage. L'idée de Carax, c'était qu'il y avait un rapport entre les manipulations génétiques et la spéculation financière. Selon lui, ce qui arrivait à la biologie et ce qui arrivait à l'économie relevait du même projet de destruction de l'espèce humaine. Au fond, ce qui intéresse Carax, disait Pointel, c'est le capitalisme comme perversion. Il veut mettre en scène la spéculation boursière comme un jeu imaginé par Satan. Et comme il est impossible de représenter le diable sous une forme humaine, il cherche à filmer des virus. Le cinéma lui-même est un virus, dit-il. L'idée de virus est représentée par le cinéma avec ses images planétaires, ses trailers qui tournent sur les écrans des ordinateurs à la vitesse de la lumière. À la limite, plus besoin de tourner les films, dit-il. Seules les bandes-annonces suffisent. C'est elles qui sont virales. Elles ne cessent de fabriquer du désir. Déjà, nos désirs ne sont plus les nôtres, mais ceux de l'industrie du cinéma qu'elle nous a dictés. Et à cause de ces images qu'ils prennent pour leurs désirs, des gens se précipitent dans une salle ou sont rivés sur Internet. En tout cas, dit Pointel, ce film-là coûterait des milliards. Et comme il fallait éviter de répéter la catastrophe financière des amants du Pont-Neuf, qui avaient complètement grillé Carax, Pointel, pour se prémunir, était en pourparlers avec le Qatar, et voulais-je bien l'excuser si le téléphone sonnait durant notre dîner. Au Qatar, il était encore 17h, et lorsqu'il était question d'argent, les bureaux, de toute façon, ne fermaient jamais. « Bien sûr, dis-je, complètement pété. » Et son téléphone sonna, n'arrêta pas de sonner, il s'éloignait en boitant dans l'entrée du restaurant, revenait, le téléphone sonnait de nouveau, il repartait. Nous réussîmes néanmoins à commander. Macron lui-même, avec un zèle obséquieux, avait tenu à prendre notre commande. Pointel choisit le plateau Prestige, qui était composé d'un demi-homard américain, d'un demi-tourteau, de 3 crevettes roses, de 2 langoustines, de crevettes grises, de 6 bulots et d'une 12aine d'huîtres sélectionnées parmi les variétés de la carte. Une sorte de casting, en somme. C'est pour 2, dit Pointel. Mais il m'invita à en commander un autre de mon côté, car il n'avait pas envie de partager. En général, à lui seul, il engloutissait le plateau. Mon choix se portait plutôt sur le casting d'huîtres. Pointel se récria aussitôt. Le plateau Prestige était un meilleur choix, car non seulement il y aurait autant d'huîtres que dans le casting, ce que Macron confirma, mais en plus, il y avait toutes sortes de crustacés qu'il se ferait un plaisir de manger si je ne les voulais pas. C'était vraiment plus avantageux, dit-il. Et comme c'était lui qui payait, je commandai moi aussi un plateau Prestige. En croquant dans la chair d'une huître, je me sentis défaillir. J'avais bu abondamment, mais ce n'était pas le vin qui me retournait le cerveau. Trouver la vie qui mène à l'espace absolu. Je m'enivre pour ça. Mais toujours je reste au bord du mystère. Non. Ce soir, je défaillais de plaisir parce que la chair de l'huître est un délice qui procure des frissons. On dirait que des trésors de nacre vous scintillent sur la langue. Et cette huître-là, que la serveuse m'avait désigné comme un grand cru de Normandie, fondait dans la bouche comme un bijou marin. Manger des huîtres est un acte sacramentel, dis-je à Pointel, qui ronchonna. Lui ne jurait que par le homard. The Great Simino. Voici que Pointel coupa son téléphone. Tout en cassant son demi-tourteau avec une pince, il me demanda des nouvelles de Simino. Lui avais-je fait lire mon scénario. Simino lit tout ce qu'on lui transmet, me dit-il. Il passe son temps à lire, il cherche la perle, le scénario absolu, celui qui saura attirer Dieu dans ses pages.
Cette expression me surprit parce que c'était une phrase de mon propre scénario. Une phrase que j'avais employée à propos de Moby Dick dans ce Great Melville, et j'étais heureux que Pointel la cite heureux qu'elle sorte du texte et passe ainsi dans la conversation.
Simino, insista Pointel, a lui-même écrit des dizaines de scénarios. C'est d'abord un très grand scénariste, avant d'être un très grand réalisateur. Avez-vous lu ses romans ?
Depuis qu'il ne tournait plus, c'est-à-dire depuis une 20aine d'années, Simino était devenu écrivain. Et s'il écrivait bien entendu ses romans en américain, il ne les publiait qu'en traduction. Vous avez lu Big Jane, j'imagine, me demanda Pointel.
Eh bien, ce roman n'existe pas en Amérique. Il a été écrit en américain, mais Cimino a refusé qu'il soit publié dans cette langue. On ne trouve pas Big Jane aux États-Unis, ce qui en dit long sur le rapport de Cimino avec son pays. En sortant pour aller fumer une cigarette, Pointel et moi, accompagnés par Saba, qui avait instantanément bondi dessous la banquette dès qu'il avait senti que je me levais, nous croisâmes les deux moustachus qui, dans l'entrée du restaurant, conversaient avec Macron. À mon passage, ils détournèrent le regard. Sans doute se plaignaient-ils de mon comportement, ou alors ils essayaient d'avoir des informations, mais je m'en fichais. Les huîtres, la présence de Pointel, notre conversation qui promettait d'être infinie, tout m'apaisait. Tu avais eu raison de sortir de chez moi. Il s'était passé bien plus de choses depuis mon arrivée avec Saba chez Bofinger que durant les 5 derniers mois. Et l'essentiel était encore à venir. De grandes choses, à coup sûr, auraient lieu ce soir. Et ma vie en serait changée. Après tout, n'avais-je pas désormais 50 ans ? N'allais-je pas entrer à partir de cette nuit dans la seconde partie de mon existence ? Dans mon enthousiasme, je dis à Pointel que c'était mon anniversaire. « Quel âge ? » demanda-t-il. « 50 ans, dis-je. » Il hurla « Champagne !» Et Macron, qui était posté juste derrière nous dans l'encadrement de la porte à tambour grande ouverte à cause de la chaleur, appela un serveur. « Deux coupes pour Monsieur Pointel, » dit-il. Nous fumions sur le trottoir. Pointel regardait ses textos et moi je contemplais la montagne de glace sur laquelle s'entassaient des cageots d'huîtres que les écaillés, en les ouvrant, faisaient briller comme des diamants. La nacre est l'autre nom de la douceur. Elle sauve l'instant où elle apparaît, une vie pleine de nacre. Voilà ce que je désirais. J'ai d'abord pris Cimino pour une femme, dis-je à Pointel en vidant la coupe de champagne. C'était à la sortie de la Freak Collection, au printemps dernier, en avril, le 17. Il faisait un temps splendide et la ville de New York baignait dans une lumière rose. Cimino avait avec lui un sac rempli de livres, son visage était lisse, absolument dépourvu de rides. Il semblait imberbe, comme un adolescent. Sous une casquette de baseball surmontée du mot « fuck », sa longue chevelure corbeau et ses lunettes teintées aux reflets mauves lui donnaient un air de diva. Ses manières étaient à la fois graciles, comme celles de Gatsby, et dures, ou plutôt lointaines, comme celles d'un cow-boy. Il était absolument charmant. Son insolence elle-même était drôle. Un aristocrate. Un personnage de Proust attifé en gaucho. Ou plutôt Proust lui-même avec une chemise en jean, un pantalon de cuir et des boots. La première chose que Michael Cimino m'ait demandé, dis-je à Pointel, tandis que nous revenions avec Saba vers notre table et que nous commandâmes une nouvelle bouteille de pinot noir pour finir nos plateaux prestige. J'avais mangé toutes les huîtres et laissé comme convenu les crustacés à Pointel, qui tenait absolument à me faire goûter le tourteau. C'était si je dormais. Pas tellement, avais-je répondu. Nous traversions Central Park, une petite brise soufflait depuis l'Hudson, la lumière scintillait à travers les feuillages des grands ormes. Cimino m'avait serré la main. Fraternité, m'avait-il dit. Solennellement.
5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents, je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex, c'est bouteille vide. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi m'emplir un dernier verre. Claque, verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool s'agrippe et ça commence.
Yeah, 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 yeah.
Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Casse-toi.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout.
5h du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon nom dit sous ses gontines.
Et qu'est-ce que t'as?
Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine. Sa finale,
champagne.
Je l'accompagne, elle dit
50.
Je lui dis ça me tente.
Et vous êtes rentré comment?
À la prochaine, je t'en ai une.
Chacun fait ce qu'il lui plaît.
Que de pression dans les bars.
Personne ne pousse à boire. Chacun fait ce qu'il lui plaît.
Légende, c'est Mali.
Pépé calcomanie.
7 heures du mat, l'hôtel. Je paie. J'abrège, je fouille mes poches. Je sais c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sous les redons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule sur le lit dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé. Ils me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non.
Chacun fait ce qu'il lui plaît.
Sous mes pieds, il y a la terre. Je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est un cajot et pas de taxi. Les chats qui se tapent leurs petits ronrons. Les éminences, les petits bateaux. Paul Lachapelle, je me sens pas belle. Mes bigoudis sont plus en plus. De mon studio, j'aspirateur. Ma vidéo me fait un peu peur. Sont toutes fumées dans son cendrier. Spankinette, c'est de bouteille vie. Je suis toute seule, toute seule, toute seule.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après le petit moment musical, nous revenons donc à la suite du roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Selon Simino, il était impensable de dormir. Depuis toujours, il ne dormait que d'un œil, car on se sent entouré de choses qui peuvent nous tuer, m'avait-il dit. C'est à l'armée, lorsqu'il s'était engagé vers 20 ans, qu'il avait commencé à ne plus dormir. Je pensais que le sommeil allait m'éloigner de la vérité, me dit-il. Alors la nuit, dans le dortoir du camp d'entraînement de Fort Dix, pour ne pas m'endormir, je visualisais le drapeau des États-Unis. Je le faisais flotter au-dessus de mon lit et méthodiquement, par désir de n'appartenir à rien ni à personne, et encore moins à une nation qui avait consciencieusement massacré les tribus Apaches, les Cheyennes, les Sioux, les Comanches ou les Moraves, je crevais chaque étoile jusqu'à ce que la bannière fût vide. Vous comprenez, me dit Michael Simino en sortant de sa poche une flasque de vodka qu'il avait précautionneusement enveloppée dans un sac en papier, comme on fait aux États-Unis. Il y a eu tellement de morts au nom de l'Amérique, et je ne parle pas seulement des soldats envoyés en Irak ou au Vietnam, je parle de tous ceux que l'Amérique a tués et qu'elle continue à tuer. Il faudrait pour chaque mort, pour chaque centaine, pour chaque millier de morts, crever une étoile de la bannière des États-Unis d'Amérique. Oui, au beau milieu de Central Park, alors que le crépuscule se préparait doucement et que j'étais heureux de boire de la vodka après toutes ces heures à attendre Simino devant un tableau de Rembrandt, il m'expliquait, détendu, souriant, l'importance de cet acte qui relevait selon lui de la désobéissance civile. De toute façon, la mort d'une galaxie est la condition de son éclat, précisa Simino. Et ce tourbillon de 50 étoiles n'accroche plus rien d'autre au ciel de l'Amérique que le bilan éternellement censuré de ses morts. Et d'ailleurs, continuait Simineau, à quoi d'autre pourraient bien correspondre les bandes rouges du drapeau, sinon au sang versé? Selon lui, la bonne vieille bannière étoilée n'avait cessé à travers l'histoire de boire le sang des parias. Elle était le buvard sacrificiel de l'Amérique, la serpillière dont les gouvernements successifs s'étaient servis pour éponger les massacres. On dit que les étoiles représentent les États d'Amérique, mais en vérité, dit Simineau, elles décomptent chaque tribu indienne décimée. Tandis que je m'efforçais de rapporter avec précision à Pointel les paroles qu'avait prononcées Michael Simineau, les deux moustachus reprirent place à une table, juste à côté de l'entrée. Non seulement ils me lançaient des regards furibonds, mais ils tentaient d'écouter notre conversation. J'étais sur le point de raconter à Pointel ce qui m'arrivait avec ces deux types. Mais je n'étais déjà pas tellement sûr que les propos de Simineau sur l'Amérique puissent l'intéresser, si bien que je lui épargnais le détail labyrinthique et pour le moins absurde de mes problèmes. Bref, Simineau et moi avons traversé le parc en direction de la rivière. Une fois installé face à l'Hudson, sur un banc qu'un saule pleureur ombrageait, il se déclara tout à fait prêt à lire mon scénario. Dans l'air doux et léger de cette fin d'après-midi, tandis que les mouettes planaient au-dessus de la promenade et que des voiliers glissaient entre les gratte-ciels, j'ai sorti de mon sac le manuscrit relié de The Great Melville, que j'avais pris soin d'imprimer en rouge, en hommage aux publications de l'International communiste. Simineau reconnut immédiatement l'hommage. « Comme Marx !» s'exclama-t-il. À peine avait-il commencé sa lecture, se munissant d'un crayon papier qu'il avait sorti instinctivement de sa poche. Je compris qu'il avait l'intention de lire entièrement mon scénario, de le lire ici, sur ce banc, à mon côté. Simineau tournait les pages. Il soulignait des phrases et, bien entendu, je ne disais rien, j'osais à peine le regarder. Je me contentais de boire des gorgées de vodka et de lui passer de temps en temps la flasque. Lorsque j'allumais une cigarette, je lui en proposais une qu'il acceptait sans un mot. Et il m'arrivait, en jetant un œil furtif sur le manuscrit, de voir où il en était. Alors j'essayais d'imaginer ce que telle scène, telle phrase pouvait provoquer dans son esprit. Au fond, je n'attendais rien. « Je savais très bien, dis-je à Pointel, que ce scénario était une folie, et que jamais ni Simineau ni aucun cinéaste ne le tournerait. Je crois même qu'il n'était pas écrit pour ça. The Great Melville était avant tout un poème mystique sur le mal. Qu'il soit lu par le réalisateur de La Porte du Paradis, et précisément par lui, me semblait déjà une chance. Plus qu'une chance, une victoire. » Et mieux qu'une victoire, une consécration. Le simple fait que Simineau lût mon scénario lui transmettait cette gloire secrète dont parlent les Écritures, qui suffit à changer un petit message en une parole ardente, un livre de rien en un souffle, car ce n'est pas seulement dans le visible qu'on écrit, ajoutai-je. L'Écriture appartient au secret, selon l'esprit et non la lettre. Et elle s'accomplit de silence à silence. J'avais pensé qu'après une telle déclaration, Pointel n'allait plus du tout m'écouter. Sans doute était-il clair pour lui, depuis longtemps, qu'il n'y avait rien à tirer, ni de moi, ni de mon scénario. Je n'étais pas et ne serais jamais bancable. Et même en admettant qu'il fût curieux du jugement de Simineau, et qu'il se soit vaguement demandé si ce foutu cinéaste génial, comme il disait, n'allait pas trouver mon scénario intéressant. Pourquoi continuerait-il à accorder de son temps et de sa confiance à un type qui se contentait de vivre l'écriture plutôt que d'en faire commerce? Un type qui n'avait aucune ambition, ou qui la plaçait dans un lieu que la société ne répertorie pas. Mais je m'étais trompé. Pointel m'écoutait. Il avait rangé son téléphone. Ce que je lui disais l'intéressait vraiment. Je crois qu'il lui importait peu de continuer à faire de bonnes opérations avec le cinéma. Il cherchait à voir autre chose. Une chose qu'on voit rarement sur les écrans. Une chose qui, peut-être, n'existe pas et dont certains d'entre nous sont les porteurs involontaires. Comme il me l'expliqua lorsque je m'excusais pour mes digressions, le cerf l'avait changé. J'en étais à ce moment de l'ivresse où quelqu'un parle en vous. Ce ne sont pas seulement les noms qui fusent dans votre tête, mais une euphorie qui vous ouvre à cette région limpide où les mots discernent un trésor. Et ce soir, il me semblait qu'en parlant, je rejoignais ce flot qui compose The Great Melville. Macron s'approcha de notre table. Voulions-nous un dessert ? Pointel souhaitait surtout continuer à boire, moi aussi. Nous commandâmes deux verres d'Armagnac. J'avais envie d'aller aux toilettes, mais si je me levais, Sabat bondirait une nouvelle fois hors de la banquette pour me suivre à travers le restaurant en sautant de joie, et cela, je ne pouvais plus me le permettre. J'avais beau être protégé par Pointel, Macron ne laisserait pas passer cette nouvelle incartade. Comment faire ? Je n'allais quand même pas demander à la serveuse de surveiller mon chien pendant que je pissais. Quant à Pointel, avec sa béquille, il tenait à peine debout. Il lui serait impossible de neutraliser Sabat. Je l'imaginais déjà se casser la figure au milieu du restaurant, la cravate mauve à la main, hurlant de douleur à cause de sa jambe, pendant que le beau, le grand, le fougueux Sabat se jetait de table en table à ma recherche, en bousculant tout sur son passage. Il fallait absolument éviter une telle catastrophe. Alors, avec le plus de précautions possible, je me décollai de la banquette au ralenti, afin que Sabat ne perçût aucune variation de poids. Puis je contournai la table sur la pointe des pieds, le doigt sur les lèvres, à l'attention de Pointel. J'évitai même de me retourner. Un simple regard à Sabat, il serait bien capable de se réveiller. Je me dirigeais vers les toilettes. Les deux moustachus n'étaient plus là. En passant devant l'entrée du restaurant où Macron continuait d'accueillir de nouveaux clients, je croisai le regard d'une femme qui, sur le trottoir, fumait une cigarette et téléphonait en pleurant. Son visage, très blanc, contrastait violemment avec sa chevelure noire et ses lèvres rouges. Elle était d'une élégance qui tranchait avec les autres dîneurs, avec la soirée, avec les lieux. Elle portait un blouson en hermine, une jupe rouge bordeaux et des sandales à talons vert pomme. J'ai noté le détail de ses vêtements parce que leurs couleurs m'éblouirent. Je restai planté là à la contempler comme un imbécile. Elle se retourna vers moi et nos regards se croisèrent pour la deuxième fois, plus serrés qu'une étreinte. Ses yeux étaient verts cuivrés. Son visage, baigné de larmes, avait la souveraineté d'un royaume. D'un coup, je perdis l'équilibre et m'étalai tout mon long à l'entrée du restaurant. C'était Sabat qui avait bondi sur moi et voici qu'il me léchait les joues. Maintenant, la belle pleureuse souriait, elle se payait ma tête. Par miracle, personne ne vint nous rabrouer lorsque je revins des toilettes avec Sabat. Il fila immédiatement sous la banquette, sans que personne ne le remarque. Et Pointel, qui avait l'air bien pompette, attendait patiemment la suite de mon récit en buvant son Armagnac. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc... Ce roman de Yannick Hennel, « Tiens ferme ta couronne », que nous reprendrons et terminerons, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.